Shalom Bourgogne.
Bonjour Marie.
Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, on aimerait parler du book banning qui a lieu aux États-Unis. Depuis 2021, il y a des milliers de livres qui sont bannis ou remis en question dans certains états du pays. Et le nombre de livres qui sont ciblés par cette ordre de censure a augmenté depuis 2023. La plupart parce que ce sont des livres qui font référence à la sexualité, au genre ou au racisme et qui donc font l'objet de mesures conservatrices. Et ils ne peuvent plus être accessibles dans les programmes des écoles ou on ne peut plus les trouver dans certaines bibliothèques. Et ça concerne des livres importants comme Margaret Atwood, La Servante écarlate, je crois que c'est concerné par exemple, mais aussi des romans graphiques comme Mouse de Spiegelman ou des classiques comme Léo de Hurlevent de Bronté.
Mais aussi des livres qui sont généralement appréciés par la jeunesse avec des sujets beaucoup plus légers comme Twilight ou Harry Potter. Et donc ce mouvement de book banning, c'est un danger pour la culture et la liberté d'expression puisqu'on a une perte importante de pluralité littéraire. Toutefois, ça ne change rien pour la génération qui connaît déjà ses classiques parce que les livres, ils seront toujours disponibles à la vente. Ils le seront seulement enseignés dans les écoles, enseignés dans les programmes. Mais voilà, cette perte de partage, ça pose un problème de rapport à la culture puisque les enfants seront autorisés à seulement lire une sélection de livres choisis, ne proposant qu'une seule ouverture sur le monde qui reste hélas très très fermée. Et donc voilà, c'est vrai que c'est important, je pense, d'en parler de ce mouvement de book banning puisque il faut se tenir au courant de ce genre de mesures qui sont à l'encontre de la culture, à l'encontre de la liberté d'expression. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de vous parler donc, de ces romans qui sont concernés par ce mouvement. Si vous voulez voir la liste complète, je crois que Babelio en a fait...
Oui, elle a fait une petite liste d'une trentaine de livres, je crois, ouais, seulement, mais c'est déjà pas mal, parce qu'on les connaît tous, donc c'est assez étrange.
C'est vrai. Aujourd'hui, on va vous parler de To Kill a Mockingbird, écrit par Harper Lee et de...
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
Mais ce pays met en application l'idée que tous les hommes naissent égaux dans une institution humaine qui fait du pauvre l'égal d'un Rockefeller, du crétin l'égal d'un Einstein et de l'ignorant l'égal de n'importe quel directeur de lycée. Cette institution, messieurs les jurés, c'est le tribunal. Qu'il s'agisse de la Cour suprême des États-Unis ou du plus humble juge de paix du pays, ou de cette honorable cour où vous siégez. Nos tribunaux ont leurs défauts, comme toutes les institutions humaines, mais dans ce pays, ils font office de grands égalisateurs, puisque tous les hommes y sont nés égaux. Je ne suis pas idéaliste au point de croire aveuglément en l'intégrité de nos tribunaux et dans le système du jury. Pour moi, il ne s'agit pas d'un idéal, mais d'une réalité vivante, opérationnelle. Messieurs les jurés, un tribunal ne vaut pas mieux que chacun de vous. Une cour n'est sérieuse que pour autant que son jury l'est, et un jury n'est sérieux que si les hommes qui le composent le sont. Je suis sûre que vous allez examiner sans passion les témoignages que vous avez entendus, prendre une décision et rendre le défenseur à sa famille. Au nom de Dieu, faites votre devoir.
Charlotte vient de lire un extrait de To Kill a Mockingbird, traduit par Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc c'est un livre publié en 1960 aux États-Unis et écrit par Harper Lee. C'est un livre qui a reçu plusieurs prix. Enfin, il a reçu le prix Pulitzer l'année d'après. Pour résumer rapidement, c'est une fiction mais qui mêle aussi des éléments biographiques. Et c'est l'histoire qui est racontée par la narratrice Scout, et ça se déroule pendant la Grande Dépression américaine dans la ville fictive de Maycomb, en Alabama. Et la narratrice raconte son histoire, sa vie avec son frère, mais surtout un procès qui implique son père, Atticus, qui est avocat, et qui va être commis à la défense de Tom Robinson, je crois, homme de couleur noire accusé d'avoir violé une femme blanche. Et donc ça fait beaucoup de bruit, et au cours du procès, l'avocat va remettre en doute toutes les accusations qui ont été portées par le père de cette dernière, qui est juste raciste. Et son père l'aurait surpris et accusé Tom Robinson d'avoir agressé sa fille, c'est ça il me semble. Alors, je me souviens plus très bien de l'histoire, mais peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus.
En fait, plus précisément, il est plus ou moins confirmé le fait que ce serait cette femme blanche qui aurait fait des avances à Tom Robinson. Et le père les aurait surpris pendant ces moments de flirt, en fait, ces moments de drague. Même si Tom n'était pas concerné par les avances, en fait, quand le père les a surpris, il a d'abord battu sa fille.
D'accord, puisque... donc c'est le père, en fait. Mmh. D'accord.
Et ensuite, il aurait accusé Tom de l'avoir agressé et d'avoir, comment dire, en quelque sorte, corrompu sa fille, en fait, parce que pour lui, c'était vraiment se salir que d'éprouver de l'attirance ou autre pour un homme noir. Donc, en fait, là, on a vraiment une question hyper importante dans les années 30 américaines, puisqu'on a cette question de la ségrégation. Et je pense que le roman en rend plutôt bien compte. Donc, on l'a dit, il est publié en 1960, au moment du coup où se développent les lois des civil rights aux États-Unis. Et ces lois, en fait, elles impliquent justement la fin de la ségrégation, en fait. Elles impliquent le fait que tous les hommes, peu importe leur couleur, sont égaux en droit. Donc,
Mmh. Oui, mais c'est pas tout à fait intégré dans les esprits. Et...
Exactement. Et donc ce roman, en fait, il permet d'appuyer en fait cette loi des civil rights. Et justement, en fait, il rend compte de tous les préjugés raciaux. Il rend compte de tout le racisme en fait de ces États du Sud, parce que ça se passe en Alabama. Et donc c'est un État qui est encore, c'est quand même un État d'anciens planteurs en fait, donc de gens qui étaient contre l'abolition de l'esclavage. Donc c'est vrai que c'est Ça reste un livre qui témoigne en fait de ces issues aux États-Unis. Justement, comment dire, Atticus Finch, il est appelé le défenseur de nègres, et parce que justement, on a carrément ce genre de terme en fait, puisqu'il est mal vu pour un blanc de se ranger du côté de la justice si la personne accusée est noire en fait. Et en fait, ce terme qui est très violent et aujourd'hui très mal vu en fait qui est très mal vu parce que très raciste en fait. Il est utilisé tel quel parce que c'est comme ça qu'il était utilisé à l'époque, et ce réalisme en fait est hyper important dans le roman, et c'est très important pour l'autrice, je crois.
Mmh. Il me semble que t'as dit justement que c'était tu m'as expliqué avant que c'était aussi, ça comprenait des éléments biographiques, donc ouais. C'est des choses que Harper Lee a connues. Elle vient d'Alabama aussi, ou...
Oui, alors Harper Lee, elle a grandi donc dans un petit village d'Alabama aussi en fait, et en fait, dans le village où elle vivait, une femme blanche a justement accusé un homme noir de l'avoir agressée. Et en gros, pendant le procès, cet homme noir a été, a été traité de manière abominable. Et en fait, après le procès, il a été condamné, à la peine de mort. Sauf qu'après le procès, il y a eu des lettres entre les deux, qui prouvent que les échanges n'étaient pas du tout unilatéraux et plutôt bilatéraux, qu'ils étaient tous les deux dans une relation de couple, en fait.
Mm-hmm.
Et donc, ces lettres, en fait, auraient dû pouvoir l'innocenter. Il est donc ainsi plus condamné à la peine de mort, mais il reste emprisonné jusqu'à la fin de sa vie, cet homme. Et donc, ce procès, ça a beaucoup marqué Harper Lee, d'autant plus que son père était avocat, et donc défendait à ce moment-là, donc à cette personne. Donc oui, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse partie autobiographique, même si ça reste de la fiction, et même si l'issue n'est pas tout à fait semblable. Enfin, je vais pas spoiler le livre non plus, mais...
Il me semble que ce qui est intéressant dans le livre, c'est que c'est Scout donc qui raconte, il me semble.
Oui, c'est ça. Et le personnage d'Harper Lee, finalement.
Oui, et c'est vraiment très bien fait, parce qu'on a vraiment son point de vue d'enfant, qui regarde son père un peu comme nous, on verrait Atticus, vraiment une figure quand même assez impressionnante. Ouais. Et d'ailleurs, dans le film, c'est très bien refait. Et il y a aussi, en fait, une double histoire derrière avec, il me semble, Bradley, je sais pas comment prononcer, qui est aussi la question de la marge, des personnes en marge et qui sont.
La personne en marge, elle est hyper importante aussi. Effectivement, donc avec ce personnage qui reste intégré à la communauté tout en n'y étant pas vraiment, en fait. Mmh. C'est ça qui est très intéressant, c'est que les gens l'observent avec beaucoup de bienveillance. D'ailleurs, justement, le shérif fait en sorte de le protéger à la fin du roman. Je dis pas comment, mais. Et c'est vrai que, en fait, il y a cette espèce de sentiment de bienveillance envers cette personne qui est à la marge. Et j'ai trouvé ça très important de montrer ce genre de comportement, en fait.
Tout en ayant aussi, par exemple, les enfants, les amis de Scout, son frère et un ami, il me semble, en ont quand même à la fois peur, et puis il y a une certaine fascination, on veut essayer de le comprendre. Et j'aimais bien la manière dont l'histoire le prenait en compte. Il avait l'air, c'était un personnage attachant.
Oui, je comprends.
Puis comme ça fait référence au titre du livre, les moments où il apparaît, c'était assez beau.
Ouais, c'est vrai. C'est aussi un livre qui remet en question le système judiciaire américain. Le fait qu'il y a toujours un biais dans les jugements rendus, en fait, un biais qui soit raciste, un biais qui soit économique, en fait. Enfin, on peut le voir dans les procès qui ont pu avoir lieu ces dernières années, mais c'est toujours la question de l'argent qui domine et qui fait que tu peux remporter ou non un procès dans les procès américains. Et ça reste un thème qui est hyper important, sauf que, bah, justement, c'est un thème qui dérange aujourd'hui donc, les institutions américaines. On a aussi cette question de la peine de mort, en fait, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a encore la peine de mort dans certains États, aux États-Unis. Et donc, cette question, elle est vraiment représentée par le frère de Scott, justement, de Jem, puisqu'il pleure au moment où Tom est accusé, où Tom est condamné, justement, à la peine de mort. Et en fait, justement, bah, ça devrait être notre réaction à tous. Quand on entend le mot peine de mort, on devrait pleurer. Jem, c'est le personnage qui, je trouve, nous représente le plus. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais dans le sens...
J'ai plus trop de souvenirs. C'est vrai qu'il est un peu à l'écart au début, mm-hmm. à la fois parce que sa sœur en parle beaucoup, évidemment.
Oui.
Mais... C'est vrai qu'on a accès à son... Enfin, son personnage se développe un peu de cette manière-là. Avec le procès, on voit qu'il comprend ce qui se passe et que... Tout le début du roman, c'est très simple. C'est les enfants et ils mènent une vie, ils jouent dehors, ils rencontrent des gens. Et après, ça prend une certaine gravité qu'on voit avec des yeux d'enfant. Et ça nous permet de voir mieux, de se rendre compte de ce qui se passe réellement.
Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment à travers ses yeux à lui que nous-mêmes, en tant que lecteurs, on comprend l'importance de ce procès et son injustice, en fait, finalement. Donc ouais, le livre, il pose problème au système américain puisqu'il est ouvertement critique du système judiciaire et politique des États-Unis. Et en fait, ce livre, il pose problème depuis sa parution. Il a été censuré de nombreuses fois. Le livre, donc, il a subi la censure pour divers motifs, notamment avec ce vocabulaire très franc, très cru, qui a pu mettre mal à l'aise certaines personnes. Mais en fait, le sujet n'est jamais vraiment abordé dans les questions de la censure, en fait. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi ça le dérange, mais personne ne sait vraiment pourquoi, et probablement que le sujet y est quand même pour beaucoup, puisque c'est un livre qui est ouvertement antiraciste depuis sa parution. Enfin, c'est un livre qui est écrit par une femme blanche à propos de quelque chose qui se passe dans les années 30, au moment du coup de la période ségrégationniste. Il faut quand même le dire, il porte un message très fort de paix, en fait, en lui, ce livre. Et donc voilà, c'est la petite présentation de To Kill a Mockingbird par Harper Lee.
Et si vous voulez prolonger la lecture, il y a un film qui a été réalisé. Mm-hmm. Je me souviens plus très bien, mais dans mes souvenirs,
il
c'était pas mal.
Très bien, le film.
Heureusement, les toqués dans son genre sont rares. À présent, on sait comment les étouffer dans l'œuf. On ne peut pas construire une maison sans clous ni bois. Si vous ne voulez pas que la maison soit construite, cachez les clous et le bois. Si vous ne voulez pas qu'un homme se rende malheureux avec la politique, n'allez pas lui casser la tête en lui proposant deux points de vue sur une question. Proposez-lui en un seul. Mieux encore. Ne lui en proposer aucun. Qu'il oublie jusqu'à l'existence de la guerre. Si le gouvernement est inefficace, pesant, gourmand en matière d'impôts, cela vaut mieux que d'embêter les gens avec ça. La paix, Montag. Proposer des discours où l'on gagne, en se souvenant des paroles de quelques chansons populaires, du nom de la capitale de tel ou tel état, ou de la quantité de maïs récoltée dans l'Iowa l'année précédente. Bourrer les gens de données incombustibles. Gorger les deux fées. Qu'ils se sentent gavés, mais absolument brillants, côté information. Ils ont alors l'impression de penser. Ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du surplace. Et ils seront heureux, parce que de tels faits ne changent pas. Ne les engagez pas sur des terrains glissants comme la philosophie ou la sociologie pour relier les choses entre elles. C'est la porte ouverte à la mélancolie. Tout homme capable de démonter un téléécran mural et de le remonter, et la plupart des hommes en sont aujourd'hui capables, est plus heureux que celui qui essaie de jouer à la règle à calcul, de mesurer, de mettre l'univers en équation. Ce qui ne peut se faire sans que l'homme se sente solitaire et ravalé au rang de la bête. Je le sais, j'ai essayé. Au diable tout ça. Alors place aux clubs et aux soirées entre amis, aux acrobates et aux prestigitateurs, aux casse-coups, jet cars, motogires, au sexe et à l'héroïne, à tout ce qu'on ne supporte, à tout ce qui ne suppose que des réflexes automatiques. Si la pièce est mauvaise, si le film ne raconte rien, si la représentation est dépourvue d'intérêt, collez-moi une dose massive de thérémine. Je me croirai sensible au spectacle alors qu'il ne s'agira que d'une réaction tactile aux vibrations. Mais je m'en fiche. Tout ce que je réclame, c'est de la distraction.
Merci Marie pour cette lecture de Fahrenheit 451. C'est un roman dystopique de Ray Bradbury publié en 1953 aux États-Unis et qui est paru en France en 1955 aux éditions de Noël. Donc pour résumer, ce roman présente une société américaine future où les livres sont interdits pour le bien collectif et où les pompiers sont chargés de les brûler. Le livre nous permet de suivre Montag, pompier qui s'intéresse finalement à la lecture et commence à imaginer la possibilité d'un monde différent. Pour cela, il devient un danger criminel.
C'est ça. C'est particulièrement intéressant ici puisqu'on a affaire à un livre qui avertit les lecteurs des dangers de la censure. en imaginant une société où tous les livres seraient détruits. Mais le livre lui-même, aujourd'hui, subit une sorte de censure puisqu'il est mis à l'écart des bibliothèques, des programmes scolaires aux États-Unis, et il serait banni notamment à cause des thèmes controversés qu'il aborde et qui seraient inadaptés en fait, à certains publics. Dont le premier thème, c'est la censure, évidemment.
Oui, bien sûr.
Donc on a une censure totale, comme je l'ai dit, tous les livres sont brûlés, et les gens qui sont en possession de bibliothèques verraient leurs biens détruits, voire leur maison totalement. Ils seraient dénoncés, il y a aussi la possibilité pour les voisins, par exemple, de déposer des lettres et de dire s'ils connaissent des gens suspects. Et on a un renversement total de la figure du pompier qui, cette fois, n'éteint plus le feu, mais elle l'allume. Il détruit, il est le relais d'un pouvoir assez grand.
Et comment dire, le personnage principal, je me rappelle, Montag, pardon. Le personnage principal, il est le seul à se poser des questions sur cette pratique de brûler des livres, qui me paraît un crève-cœur.
pas tout à fait, non, mais c'est vraiment justement un marginal de se dire « Ah, pourquoi on les brûle ?» Mais il se pose pas de questions, en fait. Dès le début, dans le fil du livre, on comprend qu'il commence à s'intéresser à la lecture et à ce qui se passe, mais qu'il est au début de sa prise de conscience. Mmh. Et bien sûr, il existe des gens qui vénèrent les livres et qui sont justement dénoncés. Mais il y a aussi une partie un peu résistante dans le livre, sans divulguer la fin.
Ouais.
Mais oui, l'autorité, c'est... Il me semble qu'on est en état qui est tout le temps en guerre, mais les gens n'en ont pas conscience. Et l'autorité désavoue totalement. Le gouvernement veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de passé possible, qu'on se souvienne de rien, bah, notamment en brûlant les livres. Et c'est aussi pour glisser les gens hors de la politique et de la réflexion, puisqu'ils n'ont pas les livres pour y penser, ils n'ont pas les moyens, on ne leur donne pas en fait, la matière pour penser.
Et les gens savent lire ou vous...
Il me semble, alors, je suis plus très sûre, mais oui, puisqu'il a, se rend compte, en fait, lors d'une de ses dernières interventions avec les pompiers, il me semble qu'il glisse un livre, en fait, dans sa poche. Donc oui, ils savent lire, mais après, peut-être qu'il existe... Il me semble qu'ils peuvent, par exemple, lire des petits programmes, ou c'est des choses... Okay. Mais la plupart du temps, ils sont vraiment scotchés à leur télé-écran. Et ce sont c'est terrorisant, pardon. Alors, si j'ai bien compris, c'est vraiment des murs avec des écrans et les personnages peuvent interagir avec les personnes qui sont sur la télévision, sur l'écran.
C'est une dystopie, c'est un film d'horreur, là.
C'est vraiment très étrange, mais c'est pour plonger, en fait, vraiment le lecteur dans une société de consommation poussée à bout où le bonheur est directement consommable tout le temps.
D'accord, ok.
Et voilà. Les gens sont quand même pas satisfaits en fait de ça, puisqu'ils ont des... Ils cherchent toujours plus de distractions, ouais. Plus de choses un peu étranges, comme... il me semble qu'au début, il y a des personnages qui, par contre, font juste des courses de voiture, mais c'est une recherche d'adrénaline qui va les éloigner de tout le reste. Et il y a la question de la santé mentale qui est aussi intéressante, puisque ces personnages ne vont pas bien. Notamment la femme de Montag qui est en quelque sorte paralysée, en fait. Elle est monopolisée par toutes ces distractions et ça ne la satisfait pas du tout dans son quotidien.
Donc la question de la résistance, elle n'est pas plus présente que ça, en fait. Il y a plutôt cette question de la collaboration, de dénoncer ses voisins qui possèdent des livres.
Oui, alors ça, c'est beaucoup présent dans le film, qui en a été fait d'ailleurs. Mais le livre, je l'ai lu un peu plus longtemps, mais il me semble qu'il y avait quand même cet aspect-là. On a quand même l'aspect résistant dans une bonne partie du livre, notamment à la fin, qui est très belle, la fin. Je t'invite à le lire.
Oui, j'ai très envie de le lire depuis longtemps, en plus.
Alors, on suit vraiment Montag qui... En fait, on le suit quand il se rend compte que c'est pas normal tout à fait, mais il comprend pas tout à fait tout. Et puis, il y a des figures dans le livre qui l'invitent à penser qu'il y a des manières de vivre différentes, quand même, de celle-ci, dans laquelle il a été, je pense, éduqué. Puisqu'on ne précise pas depuis quand ce type de société est en place.
Oui, bien sûr.
Donc je ne sais pas réellement si ça s'est passé pendant qu'il était jeune, par exemple, ou si c'était avant sa naissance. Mais globalement, on a l'impression que c'était quand même très vieux et qu'il a grandi là-dedans, il ne se pose pas de questions.
Oui, d'accord, ok. Waouh.
Mais ça devient trop compliqué à la fin pour lui, parce qu'il ne peut plus se cacher. Et ça se voit, en fait. En fait, c'est aussi ça l'élément, c'est que ça se voit quand une des personnes dans cette société se met à lire et développe des pensées qui vont contre ce qu'on partage.
Très bien, bah merci beaucoup pour cette belle découverte.
Oui, je t'invite à la lire.
Ouais, bah j'ai très hâte de me le procurer.
Et donc, que lis-tu en ce moment ? Je suis en train de lire Un désir démesuré d'amitié de Hélène Gianecchini. Je prononce sûrement très mal son nom. C'est entre un essai et un roman. Je pense que ce serait aussi banni si c'était publié aux États-Unis puisque ça parle d'amitié, notamment de la question de famille choisie dans les milieux queer.
D'accord,
c'est très intéressant. Et toi ?
Et donc, moi aussi, je pense que ça serait encore un livre banni puisque je lis en ce moment We Should All Be Feminists. Donc, Nous devrions tous être féministes, publié par Bellux. Enfin, c'est ma prochaine lecture, donc bon. Effectivement, je suis pas sûre que ce soit très très autorisé.
On reste dans le thème.
C'est clair. Eh ben, merci beaucoup et à la prochaine fois.
Pour Radio Shalom Bourg.